Tu es lassé du modèle entrepreneurial classique où il faut tout faire vite, tout le temps, et où le succès se mesure uniquement en termes de chiffre d'affaires. Tu as envie de créer un business qui te ressemble vraiment, qui te permette de t'épanouir et d'avoir un impact positif sur le monde. Je te souhaite la bienvenue sur le Slowpreneur. C'est le podcast qui te guide pour entreprendre à ton rythme, en accord avec tes valeurs et tes envies. Je m'appelle Lionel Clément et chaque semaine, je te donne mes astuces basées sur mon expérience de plus de 10 ans d'entrepreneuriat pour arrêter de faire de ton business le tout de ton existence, mais au contraire, créer ton entreprise en fonction du mode de vie que tu veux vraiment avoir. Alors, prêt à explorer le monde du slowpreneuriat et à créer une entreprise qui te ressemble vraiment? Commence à définir ton slow business et à construire ton entreprise idéale en écoutant l'épisode qui suit et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. Est-ce que vous connaissez la fable de La Fontaine, la grenouille qui vous laisse faire aussi grosse que le bœuf? Eh bien, je vais vous faire aujourd'hui un gros spoiler. À la fin, elle éclate. Un petit peu comme cette chère grenouille, j'ai pendant près de 10 ans cru que pour réussir comme entrepreneur, il fallait que je crée la plus grosse boîte possible. Et en attendant que ma boîte soit bien grosse, comme je le souhaitais, d'affirmer que j'avais déjà une super grosse boîte. Comme je fais partie de ces entrepreneurs qui, quand ils disent qu'ils veulent faire quelque chose, le font, j'ai donc bossé sans relâche pour sortir de mon état de freelance et créer la belle agence qui me faisait rêver. J'ai pris des locaux, j'ai créé des emplois, je suis parti à la conquête des plus belles entreprises de France et de Navarre et vous savez quoi, je n'ai jamais été aussi malheureux qu'à ce moment-là. J'avais en fait la sensation d'être prisonnier dès que j'arrivais dans mes bureaux. Je me retrouvais à faire du management alors que je déteste ça. Et je n'ai jamais été aussi mal payé de ma vie qu'à l'époque, tout simplement parce que quand on est patron, on paye d'abord son équipe avant de se payer. Et je compte plus tous les mois où je me payais tout simplement pas. Mon seul réconfort, c'était mes clients avec lesquels je m'éclatais, au point de passer ma vie en déplacement juste pour échapper à ce que j'appelais dans ma tête mon château d'If. Pour ceux qui n'ont pas la référence, il s'agit d'une ancienne prison qui est juste à côté de Marseille. Aujourd'hui, je n'ai aucune velléité de faire grossir ma boîte, mais alors vraiment aucune. Parce que j'ai compris que j'avais entrepris jusqu'à présent avec une représentation complètement erronée de l'entrepreneuriat et que je ne tiens absolument pas à commettre les mêmes erreurs. Je bosse dans un espace de coworking au contact de plein d'autres entrepreneurs et vraiment j'adore ça. Je privilégie mon bien-être, j'organise mon temps en fonction de celui-ci. Très clairement, la pratique sportive est par exemple pour moi très importante et c'est vraiment le premier élément que je planifie dans ma journée. Et je gagne bien mieux ma vie parce que j'ai mis en place une organisation vraiment souple et surtout vraiment slow. Bref, il n'y a aucune honte à rester petit. Et ça, je l'ai vraiment compris. Pour mes anciens clients B2B, qui continuent d'ailleurs à faire appel à moi, ça ne fait aucune différence. Juste parce que ils sont heureux de me retrouver, de pouvoir travailler avec moi. Alors je sais que vous êtes très nombreux à être en cours de création de votre entreprise ou encore à avoir créé votre activité solo et à rêver de créer une très grosse entreprise. Parce que il y a une idée fausse qui fait des ravages chez les entrepreneurs. C'est l'idée que quand on est freelance, on est forcément limité dans le développement de sa boîte. Premièrement, parce que les journées, elles durent que 24 heures. On ne pourrait donc pas nécessairement prendre beaucoup de clients en même temps, au risque de ne pas arriver à maintenir une qualité de prestation. Deuxièmement, on a l'impression qu'en solo, on sera beaucoup moins crédible face aux entreprises que des agences qui, elles, ont plus de moyens et de ressources. C'est d'ailleurs pour ça que je vois plein de freelances qui se positionnent comme agences, alors qu'en fait, ils bossent de chez eux et que leur team se résume à eux-mêmes. Troisièmement, on se dit qu'en freelance, il va falloir bosser beaucoup plus au détriment de son bien-être, alors que si on grossit et on embauche, on va pouvoir déléguer, donc se libérer du temps. Je le dis d'avance, c'est complètement faux. Ce que je vous propose dans la suite de cet épisode, c'est de vous expliquer la manière dont j'ai réussi à lever cette idée fausse et comment vous allez pouvoir facilement, vous aussi, envisager le développement de votre boîte autrement. Premièrement, vous pouvez gagner très bien votre vie en tant que freelance. Et pour ça, il faut arriver à casser l'idée que pour développer beaucoup de chiffre d'affaires, il faut prendre beaucoup de clients. Avec cette logique, on se heurte à deux problèmes qui vont vous faire atteindre très très vite un plafond de verre. Le premier problème, eh ben vous devez être constamment dans une logique d'acquisition de nouveaux clients et donc une logique de prospection. Sauf que quand on est seul, on a souvent très peu de temps pour prospecter, simplement parce qu'une grosse partie de notre temps est mobilisée par la réalisation des prestations. Deuxième problème, et c'est certainement le plus épineux, c'est que pour prendre toujours plus de clients, vous allez vous retrouver beaucoup plus en concurrence avec d'autres freelances qui font le même travail que vous. Le risque, c'est de devoir baisser vos prix pour parvenir à rester compétitif. Au final, vous arrivez donc à prendre plus de clients, même si vous êtes limité par votre temps, mais votre chiffre d'affaires ne se développe pas à la vitesse que vous l'aimeriez parce que vos prix ne vous permettent pas d'atteindre vos objectifs de croissance. Pour ne pas tomber dans ces travers, j'ai mis en place deux actions hyper concrètes. Premièrement, je travaille à fond mon positionnement avec un objectif me spécialiser. Ça peut sembler tout bête, mais si vous ne travaillez pas votre positionnement, le seul critère de décision qui reste, c'est le prix. L'avantage de travailler votre positionnement de freelance, et donc votre personal branding, c'est que vos clients vont venir travailler avec vous pour vous, parce que vous allez devenir la valeur ajoutée de votre prestation. Deuxièmement, j'ai créé une prestation packagée avec un prix unique que je ne négocie pas et qui est le même pour tous mes clients. Je ne suis pas tombé dans les travers de beaucoup de solopreneurs qui vendent leurs prestations le plus cher possible, mais j'ai fixé un objectif de chiffre d'affaires que je souhaite atteindre sur l'année, ce qui me permet de fixer mon prix et le nombre de clients que je dois avoir pour atteindre mon objectif. Cerise sur le gâteau, ça me permet aussi de simplifier énormément mon approche commerciale. Je n'ai pas besoin, pour chaque nouveau prospect, de réinventer la roue pour argumenter ma prestation. C'est donc là aussi un vrai gain de temps. Deuxième technique, vous allez pouvoir être crédible en freelance, même en face de grosses entreprises. En fait, j'ai longtemps cru que pour être crédible face à certains clients, il fallait à tout prix que je me fasse passer pour une très grosse boîte. Or, je me suis vraiment rendu compte avec le temps que ma crédibilité, elle dépendait absolument pas, même pour des grosses boîtes, des ressources que j'étais capable de mobiliser. Mais en fait, elle dépendait vraiment de mon expertise et donc de ce que j'avais dans la tête. Ce qui est important pour une grosse entreprise qui m'achète une prestation, c'est que ce soit moi en fait qui la réalise. Parce qu'elle achète mon positionnement avant tout et donc mon expertise. Néanmoins, j'ai vite compris que j'avais un avantage concurrentiel sur les agences pour certains types de prestations. Et qu'en les valorisant, je pouvais beaucoup plus facilement mettre le pied dans la porte des grosses entreprises. Ces prestations, elles sont intéressantes parce qu'elles sont à la fois lucratives, elles ne nécessitent pas de mobiliser beaucoup de ressources opérationnelles et elles sont aussi des tremplins vers des prestations plus structurantes. Par exemple, il s'agit de la formation, présentielle ou en ligne, ou encore du coaching, du consulting, etc. Bref, pour bosser avec des grosses boîtes en tant que freelance, il faut se focaliser sur les bonnes prestations et donc éviter de vous mettre en concurrence avec des entreprises en regard desquelles vous n'allez pas pouvoir être compétitif techniquement. Le troisième élément, c'est qu'être freelance, ça va vous permettre de mieux gérer votre temps. Parce que vous n'êtes pas obligé de vous cramer pour réussir en tant que solopreneur. Et c'est très clairement cette prise de conscience qui m'a amené à adopter la philosophie du slowpreneuriat. Pour ça, il a fallu malgré tout que j'aie une vraie prise de conscience, que j'étais pas obligé d'avoir des horaires de bureau classiques pour être crédible comme entrepreneur. Ou, pour schématiser, que j'étais payé à la tâche et pas au temps passé. Bref, j'ai arrêté de me fixer des horaires et arrêté de m'imposer des contraintes, des limites, comme dans mes premières boîtes. Je me suis au contraire attaché à faire quelque chose de passionnant. Ça a été en fait de designer mon quotidien pour mettre en place et maintenir un équilibre entre mes passions, ma vie de famille et mon activité professionnelle. Comme je vous l'ai dit, je fais énormément de sport depuis 5 ans et je me suis passionné pour la course à pied. Donc j'y consacre une part importante de mes journées. Avant, j'essayais de caser mes séances d'entraînement où je pouvais. Maintenant, je commence ma planification de ma semaine en positionnant mes séances d'entraînement parce qu'elles sont vitales pour mon bien-être. Ensuite, je bloque le temps que je passe avec mes proches. Je sais donc qu'à partir en gros de 18h, je ne suis plus disponible par exemple professionnellement et ça pour personne. Et bien entendu, je m'interdis de bosser le week-end. Enfin, je fixe les tâches liées à mon activité professionnelle. Résultat, à la sortie, mes créneaux réservés au travail ils sont limités. C'est une très bonne chose. Ça m'oblige déjà à ne pas prendre trop de clients en même temps. Et puis, ça m'oblige aussi à aller droit à l'essentiel dans ma communication, dans ma stratégie marketing. Ça m'oblige aussi à recycler énormément de contenu. Et ça, ce n'est pas quelque chose de grave, bien au contraire. Je vais y revenir dans un prochain épisode qui va être consacré exclusivement au recyclage de contenu. Mais c'est ça qui m'a permis de gagner en efficacité et en cohérence. Par exemple, cet épisode, il est à l'origine un post LinkedIn que j'ai ensuite développé en épisode de podcast. Et le script de cet épisode, il va me servir aussi à faire un article de blog, mais aussi à plein d'autres choses que je vous expliquerai la prochaine fois. Comme vous le voyez, il est donc tout à fait possible d'être tout petit et vraiment heureux. Être slowpreneur, c'est une question de positionnement vis-à-vis de son activité. Et ce positionnement, s'il est bien mené, il n'empêche absolument pas de développer un chiffre d'affaires important et donc de bien gagner votre vie. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à écouter cet épisode. Si oui, je vous invite à le partager et puis pourquoi pas à me mettre quelques belles étoiles sur la plateforme de podcast que vous avez utilisée pour m'écouter. N'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver encore plus de conseils pour devenir slowpreneur sur mon site internet lionelclément.com. À très vite pour mon prochain épisode. Au revoir.